VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech, bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h30 en temps universel. Au sommaire, au Mali, au moins 4 civils tués. Ils revenaient d'une foire dans le centre du pays. Leur véhicule a sauté sur une mine. En République démocratique du Congo, l'Église catholique persiste et signe. Le président Joseph Kabila doit partir. Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 ont officiellement débuté ce vendredi à Pyeongchang sous le signe de la paix. Et ici aux États-Unis, le Congrès américain est enfin arrivé à un accord budgétaire crucial promulgué par le président Trump. Dans 10 minutes, c'est la Minute Éco et les sports, mais tout de suite, le journal. Au moins 4 civils revenant d'une foire dans le centre du Mali ont été tués ce vendredi lorsque leur véhicule a sauté sur une mine. Tous les passagers se dirigeaient vers la localité de Kona. Quand le véhicule a sauté sur une mine, le chauffeur a été tué ainsi qu'un passager et 2 passagères. Selon une source de sécurité à Mopti, chef-lieu de la région, cette source de sécurité qui ajoute que des dispositions sont prises pour évacuer les blessés vers un hôpital plus performant que celui de Kona. L'armée camerounaise s'est défendue des accusations d'exaction lors d'opérations contre les séparatistes anglophones, alors que l'Union européenne a estimé essentiel, je cite, « un usage proportionné de la force ». Nathalie Barge.
Nous sommes victimes de la désinformation et des fake news, a déclaré le colonel Didier Badjak, porte-parole de l'armée, précisant qu'hier, un militaire a été tué à Bamenda. Sa mort porte à 23 le nombre d'éléments des forces de sécurité tués par des séparatistes présumés. Le colonel a invité les partenaires du Cameroun à avoir un regard impartial, affirmant que l'armée camerounaise est professionnelle, qu'elle respecte les droits humains et que les rafles leur permettent de trouver des armes. Selon différentes sources, au moins 4 civils ont été tués début février par les forces de sécurité dans le nord-ouest anglophone après la mort de 2 gendarmes. Des témoins ont aussi fait état de maisons détruites et de biens brûlés. En réaction au fort déploiement de troupes dans les régions anglophones, la cause indépendantiste a pris du poids et la crise s'est muée en conflit armé de basse intensité avec des attaques isolées contre les symboles de l'État camerounais.
Les autorités rwandaises ont refusé de recevoir une délégation de députés israéliens d'opposition qui voulait évoquer la question des milliers de migrants africains menacés d'expulsion par Israël, essentiellement des Érythréens et des Soudanais. Le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a expliqué que cette délégation n'avait pas été reçue car le Rwanda n'a pas à s'immiscer dans les affaires d'Israël. Les organisations d'aide aux migrants accusent Israël d'avoir signé des accords avec le Rwanda et l'Ouganda pour accueillir les migrants expulsés, ce qu'ont démenti les 2 pays. En République démocratique du Congo, diplomates, opposants et activistes ont pris part à une célébration présidée par l'archevêque de Kinshasa, Laurent Moussengo, dans la cathédrale Notre-Dame de la capitale congolaise. La messe rendait hommage aux victimes de la répression d'une marche organisée le 21 janvier dernier à l'appel d'un collectif proche de l'Église catholique, le Comité laïque de coordination, le CLC. La marche des chrétiens ne s'arrêtera pas, nous avons le devoir sacré de continuer le bon combat pour l'émergence d'un Congo nouveau où l'homme qu'il faut sera à la place qu'il faut, a déclaré dans son sermon l'abbé François Louyéyé sous les applaudissements. République démocratique du Congo toujours, le pays est premier producteur mondial de cobalt et veut multiplier par 5 sa taxe sur ce minerai rare, très prisé dans les nouvelles technologies, d'après son nouveau code minier. La loi qui prévoit aussi de taxer les super profits des géants du secteur en RDC est en attente de promulgation par le président congolais Joseph Kabila. Le taux de la redevance sur les métaux stratégiques est porté à 10% dans la dernière version adoptée en commission mixte paritaire, Assemblée-Sénat le 27 janvier, contre 5% proposé dans le projet de loi initial. Le Tchad ne connaîtra pas de nouvelles mesures d'austérité cette année, promesse du ministre des Finances tchadien. Le gouvernement a réduit en janvier de 50% les primes ou indemnités des fonctionnaires, déjà réduites de 50% en 2016, entraînant une forte grogne sociale marquée par une grève générale du service public et des manifestations systématiquement interdites par les autorités. L'impôt sur le revenu a aussi augmenté début 2018, mais les plus petits revenus sont désormais exonérés d'impôts, a souligné M. Sabre Fadoul.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, c'est le président américain Donald Trump qui a promulgué aujourd'hui l'accord budgétaire entre républicains et démocrates au Congrès, ce qui a mis fin au shutdown, qui synonyme de la fermeture du gouvernement fédéral. Un shutdown qui a duré plus de 8 heures. Eric Maniarakiza.
Le texte prolonge jusqu'au 23 mars le financement de l'administration fédérale. Ce budget tant attendu est enfin mis sur les rails et permet aux élus de transformer cet accord budgétaire ponctuel en proposition de loi pérenne. Monsieur Trump a maintenant la possibilité de tenir l'une de ses promesses de campagne, le gonflement du budget militaire. Les démocrates ont pour leur part obtenu une hausse comparable pour les dépenses non militaires. C'est notamment la lutte contre les drogues, la couverture maladie des enfants pauvres, les investissements dans les infrastructures et une aide de 90 milliards de dollars pour les États ravagés par les ouragans et incendies en 2017. Cette hausse globale du budget pourrait atteindre 300 milliards de dollars sur les deux prochaines années. Certains républicains l'ont combattu, estimant qu'elle va considérablement augmenter la dette du pays. Le sénateur Rand Paul a dénoncé l'hypocrisie de ses collègues républicains qui avaient refusé le relèvement du plafond de la dette demandé par Barack Obama. La régularisation à terme des centaines de milliers de clandestins, les Dreamers, rêveurs, n'est pas encore résolue. Toutefois, leur avenir reste au cœur de la balance politique depuis plusieurs semaines.
Les raids du régime syrien ont repris de plus belle aujourd'hui dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, au cinquième jour d'une campagne aérienne qui a fait plus de 220 morts et révélé à nouveau au grand jour l'impuissance internationale face au conflit. Salwa Jafari.
Encore une fois, des images choquantes, des corps d'enfants gisant sur le sol de cet hôpital de Erbil. Des cris de souffrance sans fin. Dehors, les secouristes s'affairent, débordés. On a du mal à voir tellement le nuage de poussière est épais. Les bombardements ont visé plusieurs localités de la vaste région de la Ghouta orientale, proche de Damas, et dans laquelle sont assiégés quelques 400 000 habitants, dont la situation est très préoccupante. Malgré ces violences dévastatrices, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas réussi jeudi à appuyer l'appel à une trêve humanitaire réclamée par les agences de l'ONU pour permettre la livraison d'aide d'urgence. Depuis lundi, 229 civils, dont 58 enfants, ont péri dans le déluge de feu déversé par le régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon Save the Children, plus de 4000 familles de la Ghouta orientale vivent désormais dans des caves et des bunkers. Les enfants sont affamés, bombardés et piégés. Le siège signifie qu'ils n'ont nulle part pour fuir, ajoute l'organisation.
Salwa Jafari. Les organisateurs en avaient fait l'une de leurs promesses. Les JO d'hiver 2018 de Pyeongchang seront ceux de la paix dans une Corée du Sud qui n'est pas en odeur de sainteté avec son voisin du Nord. La promesse a été tenue. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Yakuba Ouedraogo.
Tout a commencé par cette image historique, une poignée de main entre Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et Moon Jae-in, président de la Corée du Sud. Kim Yo-jong devient du coup la première membre de la dynastie régnante de Corée du Nord à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Autre symbole fort de la cérémonie d'ouverture, le passage en commun des sportifs des deux pays dont les tenues indiquaient seulement le mot « Corée » dans le dos. Vous allez tous nous inspirer pour vivre en paix et en harmonie malgré nos différences, a souligné Thomas Bach, président du Comité olympique international. Puis Moon Jae-in a lancé, je cite, « Je déclare les Jeux olympiques de Pyeongchang ouverts ». L'heure précédant l'ouverture a été moins conviviale, le vice-président américain Mike Pence ayant esquivé le dîner organisé en amont. Banni de ces Jeux d'hiver pour dopage institutionnalisé, la Russie peut néanmoins compter sur 168 de ses représentants qui ont défilé sous la bannière olympique. Plus de 2900 athlètes représentant 92 États ou délégations vont se disputer les 102 titres décernés dans 15 disciplines et ce jusqu'au 25 février.
Les Nations Unies sonnent l'alarme. Les demandeurs d'asile en Grèce sont confrontés à des faits de violence et de harcèlement sexuel largement répandus dans les centres bondés aux conditions d'accueil misérables. Selon Cécile Pouilly, porte-parole du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le véritable nombre de cas enregistrés en 2017 est probablement plus élevé que les 622 rapportés, reconnaissant que le commissariat n'avait qu'une vision très partielle de ce qu'est la réalité. Voilà pour le journal. Place à la Minute Éco, la revue de l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Et elle vous est présentée ce soir par Eric Maliarakiza.
Aux États-Unis, Amazon lance dans les prochaines semaines son propre service de livraison baptisé Shipping with Amazon, livré avec Amazon, SWA en sigle. Amazon entend concurrencer FedEx, UPS, DHL et Chronopost et proposer des tarifs beaucoup plus bas que les prix appliqués. Le cybermarchand veut ainsi réaliser des grosses économies en se passant des services des intermédiaires. En Côte d'Ivoire, la compagnie canadienne Endeavour, qui exploite la mine d'or d'Agbaou, a conclu un accord avec la population locale pour mettre fin à des manifestations qui bloquaient ses installations. La société a accepté de former et d'embaucher une centaine de jeunes locaux. Depuis 5 ans, elle a versé plus de 6 milliards de francs CFA de compensation à plus de 1100 agriculteurs et propriétaires fonciers et 1,5 milliard à un comité local de développement pour financer des infrastructures routières, d'éducation et de santé. Des indemnisations financières supplémentaires devraient aussi être versées. La RDC veut porter à 10% la taxe sur les métaux stratégiques dans son nouveau code minier. Le cobalt, qui est convoité par les fabricants de smartphones et de voitures électriques, est surtout concerné. Le boom mondial des nouvelles technologies a provoqué une flambée des prix du cobalt de plus de 127% en un an. Son prix est passé de 75 000 à 81 250 dollars la tonne à la Bourse des métaux de Londres. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt.
À présent avec vous, Nicolas Pineau, bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Football, le tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération se joue ce week-end à travers l'Afrique.
Et oui, moins d'une semaine après la clôture du CHAN 2018, une nouvelle campagne de compétition interclub africaine qui débute ce week-end avec les tours préliminaires. C'est la Coupe de la Confédération qui donne le premier coup d'envoi ce vendredi entre le 11 créateur, le club malien, et le CR Belouizdad, le club algérien. À noter que le club du Djoliba est d'ores et déjà qualifié après le retrait du club libyen d'Eloi United. À suivre samedi, Énergie du Bénin contre Afia de Guinée, le Manga Sport du Gabon face au Maniema Union de la RDC, l'Olympic Star du Burundi face à l'Étoile Filante du Burkina Faso, et puis les New Stars du Cameroun contre Deportivo Niéfang, c'est un club de Guinée équatoriale, et puis la Estanda, le club ivoirien, contre le CS La Mancha, club congolais. Dimanche, l'APR du Rwanda contre Anse Réunion, un club des Seychelles, et puis Asante Kotoko, le club ghanéen, contre le Kara du Congo, le RC Berkane, club marocain, contre Mbour Petite Côte, c'est évidemment un club sénégalais, l'Africa Sport de Côte d'Ivoire contre le FC Nouadhibou de Mauritanie.
La Ligue africaine des champions aussi reprend ses droits.
Le tour préliminaire également, samedi la C Léopard de Dolisie contre la S Togo Port de Lomé, le Rai Club Kadiogo, le club burkinabé contre le CF Mounana, et puis les forces armées nigériennes contre le Oroya de Guinée. Enfin, le club sénégalais de Génération Foot contre Misr Makassa d'Égypte.
Ouverture des Jeux Olympiques d'hiver 2018 en Corée du Sud. Qu'attendre pour l'Afrique, Nicolas ?
Ce sont les 23e Jeux Olympiques d'hiver ouverts en Corée du Sud avec une belle cérémonie d'ouverture. On rappelle 8 pays africains au total, une participation inédite dans toute l'histoire de ces Jeux. À suivre ce vendredi les épreuves de ski alpin, de curling et de luge.
Et puis on se quitte avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Celtics de Boston se sont rassurés en s'imposant après prolongation face aux Washington Wizards 110 à 104. Du côté de la conférence Ouest, Golden State s'est relancé en battant la Lanterne Rouge Dallas 121 à 103. De leur côté, les Trail Blazers de Portland ont dû aller jusqu'aux prolongations pour vaincre Charlotte 109 à 103. Le match fut également très disputé à Orlando où les Magic se sont finalement imposés 100 à 98 face à Atlanta. Et puis les Lakers de Los Angeles à nouveau battus par Oklahoma 106 à 80. 80. C'est la seconde fois en 5 jours.
C'était Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Anastasie Tudiech avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. À Djibouti, lancement aujourd'hui de la campagne des législatives qui auront lieu le 23 février. Les premières du genre depuis la crise électorale de 2013. Ce scrutin qui permettra de renouveler les 65 membres de l'Assemblée nationale du pays comporte un peu de nouveautés dans un contexte où l'opposition est divisée. Pour un décryptage de la situation, Raïssa Girondin a joint Oumed Daoud, porte-parole de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, en Europe. Écoutons-le.
L'effet marquant de cette élection, de ces élections législatives de 2018, c'est que les femmes seront représentées à hauteur de 25% au sein de la représentation nationale. Elles passent de 10 à 25%. Et puis aussi, bon, ça a été les recommandations des chefs d'État et de gouvernement du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba du 28 et 29 janvier dernier.
Mais alors que s'engage la campagne pour les législatives, l'opposition absente ou divisée?
L'opposition, elle est perdue. Hein. Comme d'habitude, l'opposition n'a jamais été véritablement crédible auprès des Djiboutiens que nous sommes, dans la mesure où elle n'a jamais eu le minimum de sens de l'organisation. Donc le hasard n'a pas de place quand on cherche à prendre en charge les destinées de tout un pays, de tout un peuple.
Mais pourquoi, selon vous, le MRD, le principal parti d'opposition, ne peut pas participer à cette bataille électorale?
Écoutez, le MRD n'a pas d'existence légale, dans la mesure où, bon, ça c'est une affaire de justice aussi. Hein. Bon, donc ce mouvement a été dissous.
Pourquoi?
Et puis les responsables de ce mouvement ont saisi la justice, l'instruction est en cours. Bon, tant que les choses n'ont pas été définitivement bouclées au niveau de la justice, je ne peux pas me permettre de commenter les décisions de justice ou le dossier en cours d'instruction, madame.
Suite à la crise post-électorale en 2013, il y a un accord cadre qui a été signé entre le pouvoir et l'opposition pour avoir une CENI, la Commission électorale nationale indépendante, permanente et paritaire. Ce n'est pas un des points qui est discuté avec ce principal parti d'opposition?
Écoutez, l'existence de la CENI est utile uniquement pour la période électorale. Pourquoi dépenser de l'argent, jeter de l'argent par la fenêtre hors période électorale? Oui, ça coûte de l'argent. Nous n'avons pas d'argent à jeter par la fenêtre. Les Djiboutiens ont d'autres priorités. Le gouvernement a d'autres priorités. Dans cette commission, les uns et les autres sont représentés. Et d'ailleurs, il y a des observateurs internationaux qui sont là et validés. Ces élections ont toujours été crédibles. Au lieu dans la transparence absolue, madame.
Pensez-vous qu'il y aura un éventuel engouement de la population face à ces élections législatives?
Écoutez, la population de Djibouti est en règle générale à moins de 25 ans, essentiellement jeune. Et puis aussi, la politique du gouvernement, la politique tracée par le chef de l'État, accorde une priorité aux femmes et à la jeunesse djiboutienne. Et puis, enthousiasme général, nous dit-on, depuis Djibouti, grâce à cette initiative qui a fait qu'il y aurait 25% de femmes au sein de la représentation nationale.
C'était Oumed Daoud, porte-parole de l'Union pour la majorité présidentielle en Europe, joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le deuxième forum africain pour la résilience réunit à Abidjan au moins 250 participants, parmi lesquels des experts, des académiciens, des entrepreneurs, des représentants des gouvernements et autres. La Banque africaine de développement, la BAD, entend débourser plus $1 milliard pour aider 10 000 communautés comptant chacune en moyenne 5 000 personnes. Pour savoir comment ces communautés ont été identifiées et les défis qui se posent, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le directeur du bureau de la coordination des États en transition. Il s'appelle Sibri Tapsoba.
Nous avons donné des indicateurs de communautés où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'école, il n'y a pratiquement pas de route. Des indicateurs qui pourraient définir des environnements où il n'y aurait personne. Avec une technologie géospatiale, nous avons localisé des gens qui vivent dans ces conditions. Donc, en réalité, ces gens-là, comme nous on les appelle, ils sont les oubliés du processus de développement. Et c'est à ces gens-là que nous voulons apporter deux buts de solutions de développement, parce que ce sont ces gens les plus vulnérables. Et c'est au niveau de ces gens qu'un certain nombre de groupes vont chercher la main-d'œuvre terroriste.
Est-ce que des solutions envisagées à Société les communautés bénéficiaires?
Au niveau de la Banque africaine de développement, on est en train de lancer un grand programme, un vaste programme, 10 000 communautés à 1 000 jours, où nous allons amener l'énergie off-grid, c'est-à-dire solaire ou autre chose, hydroélectrique, et de l'eau. Et pour faire ça, il faut identifier les communautés, donc il faut les associer, il faut former les communautés, il faut les encadrer. Donc, on ne peut pas faire ça pour les communautés, il faut faire ça avec les communautés.
Quels sont les défis auxquels font face les parties prenantes?
Les défis sont changeants, mais sont constants en même temps, parce qu'on a des défis qui sont liés à la faible capacité des pays qui ont la bonne volonté et qui veulent faire des changements, mais qui n'ont pas les capacités nécessaires. Ça, c'est un. C'est aussi l'absence de ressources. Mais d'une manière générale, quand on a des idées, on peut avoir des ressources. Et évidemment, il y a des questions de gouvernance qu'il faut aussi souligner. Donc, il y a des défis qui sont structurels qui sont là. Et puis, il y a des défis conjoncturels comme ceux liés à la sécurité qui viennent de se manifester. Défis qu'on ne connaissait pas il y a 5 ou 6.
La région, comme le Sahel, c'est un casse-tête.
Ah oui, le Sahel, c'est un casse-tête, mais c'est une opportunité. C'est une région où si on arrivait à créer une dynamique où les communautés se sentaient partie prenante, on peut renverser ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais si on a des gouvernants et des partenaires au développement, y compris des pays amis, qui viennent se battre contre des ennemis dans un pays, c'est difficile. Il faut pouvoir intégrer la population. Et nous, on est confiants que l'implication qui se fait, le travail énorme qui se fait à ce moment-ci avec le G5 Sahel, mais aussi avec l'Alliance pour le Sahel, va porter ses fruits. Parce que ça implique les communautés et il y a réellement une capacité de faire bouger les choses et d'apporter des résultats.
Une analyse signée Sibri Tapsoba, directeur du Bureau de la coordination des États en transition auprès de la BAD. C'est une première. Une délégation de start-up africaines était présente lors de la dernière édition du CES, le Grand Salon Mondial de l'Innovation, à Las Vegas. L'une d'entre elles, Yélène Solar, a pu présenter son produit phare, la Solar Box. Il s'agit d'un générateur composé d'un lampadaire LED et d'un panneau solaire. Notre correspondante à Bamako, Founé Diara, est partie à Ngolobougou pour en savoir plus. Le récit est de Raissa Girondin.
C'est à Ngolobougou, à quelques kilomètres de Bamako, qu'Abdoulaye Gakou a installé le prototype de sa Solar Box, un dispositif mobile 2 en 1 qui fonctionne à l'énergie solaire et permet d'avoir une source d'énergie adaptée aux différents appareils du quotidien comme un téléviseur, un téléphone portable ou encore une radio.
L'avantage que nous avons avec la Solar Box, c'est que son autonomie est modulable. Nous nous adaptons aux besoins de la localité. Ce qui veut dire que nous faisons ce qu'on appelle un dimensionnement qui nous permet de déterminer le nombre de panneaux solaires et leur puissance, le nombre de batteries et leur capacité. Nous avons une autonomie aujourd'hui qui va de 6 à 24 heures.
Sa fabrication, explique l'ingénieur, est à la fois écologique et économique, sans oublier l'aspect pratique pour les travailleurs de la terre.
Pour s'installer en brousse sans éclairage, ce n'est pas évident. L'intérêt d'avoir un appareil comme la Solar Box est crucial. Plusieurs tâches peuvent être accomplies une fois la nuit tombée, et ce, facilement. Le générateur est grand, donc il peut éclairer plusieurs endroits.
Au Mali, seuls 15% des zones rurales sont électrifiées. La Solar Box entend bien combler ce déficit.
venir pourrait être cité en exemple.
Inos. Jizo.
Bouleversé mémoire nanga. Vexé motema nanga. Zote memisimi songambo po elula kiyo.
La lettre Z, président du Shark Club.
Au bouleversé mémoire nanga. Peu vexé motema nanga. Zote memisimi songambo po elula kiyo.
OLK, initiative plus.
Bite ni nyoso ya zoto nanga. E komiko fundana. Misu lobi na tala kibeko otala. Monoko lobi motema ndetinda kina benga. Moteme lobi makolonde funga kinga kuna.
Oska yembeshe temba.
Biteni nyoso ya zoto nanga. E komiko fundana. Misu lobi na tala kibeko otala.
Patrick Mounyo.
Monoko lobi motema ndetinda kina benga. Moteme lobi.
De la créativité de l'Est, qui vient de l'Est de la République démocratique du Congo, le chanteur Enos B, c'était Top Model. C'est ainsi que nous nous quittons. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'était Sims Loumami, assisté de Cedric Franklin. Je suis Anastasie Tudiech. Pour l'actualité 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook également. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique.
Bakiyambaki makambo po ingela poussière yango poni bileino
Pati Bells Fondation Maliage
bébé na tindelio maloba poki pete
Jessica Basile
na komelio ba texto pour répondre
Monsieur Louis Basse à Malabo
Facebook ko blokanga déjà yango na bengi feregola
Albert Boyo
ayembela yo na mongongo na yamo
Bambi Pash Claire.
Kona yebi koyemba ezalo sambo. Mbalami bale, bebe nanga.
Junior Loboko, garçon kapa.
Mbalami bale, mon amour.
Bibish Loboko, étoile du ciel. Ivi et Koufou.
Chéri nanga ya ba fossette. Nata ya top model. Abiye mana ya fashion.
Mama bijou essence de beauté.
Koza nga yo na vinanga. Eza porta malheur.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis condamnent l'arrestation d'au moins 29 manifestantes iraniennes pour avoir exercé leurs droits et libertés fondamentales en protestant contre le port obligatoire du hijab. La porte-parole du département d'État, Heather Nauert, dans une déclaration écrite, a souligné que les États-Unis demeurent fermes dans leur soutien à la liberté de religion, d'expression et de rassemblement pacifique. Le président Donald Trump a dit, de son côté, que le peuple iranien est la source des plus grandes craintes du gouvernement iranien. Cette peur s'est encore affichée dans la réaction du régime vis-à-vis des femmes protestant contre le port obligatoire du hijab. Des images et vidéos des femmes iraniennes sans voile, agitant leur hijab, se sont propagées à travers les médias sociaux. Certains hommes et des femmes voilées ont également protesté contre l'imposition du hijab. Ils ont été motivés et inspirés par l'action d'une jeune iranienne qui était debout sur une caisse en bordure de la rue de la Révolution à Téhéran avant le début des manifestations massives contre le gouvernement à la fin de décembre. La lutte contre l'imposition du hijab n'a rien à voir avec la question de savoir si le hijab est bon ou mauvais. C'est une question de choix, d'égalité, a écrit sur les médias sociaux Omid Bemarian, une journaliste basée aux États-Unis qui a été une fois emprisonnée en Iran. Ainsi que l'a relevé le rapport 2016 du département d'État sur les droits humains, la marche des femmes iraniennes est limitée dans tous les domaines de la société. Non seulement elles doivent obligatoirement porter le hijab, mais leur témoignage en justice vaut la moitié de celui d'un homme. Elles ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants ou leurs époux étrangers. Des restrictions sociales et légales limitent leurs opportunités éducatives et professionnelles et elles sont punies de manière disproportionnée pour certains crimes. Les femmes en Iran méritent mieux. Elles méritent de se voir accorder leurs droits fondamentaux, ainsi que soulignent les manifestations contre le port obligatoire du hijab. Ainsi que l'a dit la porte-parole du département d'État à Nawards, les gens doivent être libres de porter les vêtements de leur choix et pratiquer la religion qu'ils désirent. Priver les individus de ce choix sape leur autonomie et leur dignité.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.